Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous recevons avec plaisir Paul Darmon, qui vient nous parler de son nouveau roman « Cherche David éperdument », qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
Alors, nous sommes ravis vraiment de vous accueillir dans cette émission. C'est la seconde fois, on y reviendra dans un instant. Et puis, quelques mots pour vous présenter. On peut dire que vous êtes écrivain et auteur. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que je comptais dire écrivaine et autrice et vous m'avez repris tout à l'heure. Pourquoi ?
Oui, parce que je suis une amoureuse quand même de la langue française. Je fais partie du siècle dernier, je l'assume. Et que auteur et écrivain ne définit pas du tout un sexe, mais une activité. Et que ça pouvait être aussi bien... Madame de Sévigné était un auteur et un écrivain. Personne ne l'a jamais appelée autrice et écrivaine.
Alors, ce qui est intéressant de dire, mais vous allez le sentir tout au cours de cette interview, c'est que même si vous êtes né au siècle dernier, vous êtes très moderne, vous êtes libre. On a même envie de vous prendre pour modèle et on sent qu'entre les lignes des personnages que vous décrivez, il y a beaucoup de vous. Mais on va y venir dans un instant. Alors, je poursuis la présentation et puis si vous voulez ajouter des petites choses, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Vous êtes né à Casablanca au Maroc, où vous avez passé votre adolescence. Vous vivez actuellement à Buenos Aires, où vous écrivez toujours. On dit dans la petite notice de l'Antilope que vous-même, vous y dansez le tango.
Oui, absolument.
Toujours.
Oui, oui, absolument, plus que jamais même.
C'est une passion pour vous ?
Oui, mais j'ai été très emballée. Je ne dansais pas le tango du tout quand je suis arrivée à Buenos Aires, il y a une quinzaine d'années. Mais force oblige, on ne peut pas être à Buenos Aires. Bien que tout le monde n'y danse pas le tango, loin de là. Mais c'est, la musique est tellement prenante. Et puis, je dois dire que l'abrasso est quelque chose... L'abrasso, c'est l'étreinte. Et de danser avec... c'est absolument magnifique. Alors, il y en a qui définissent le tango comme une danse machiste, parce que c'est l'homme qui dirige, qui conduit, mais il doit laisser sa liberté d'expression aussi à la femme quand elle danse.
Donc, vous avez vécu sur plusieurs continents, africains, Afrique du Nord, Amérique du Sud. Est-ce que vous avez vécu en Europe, en France ?
Mais en France, oui, bien sûr. J'ai vécu assez longtemps même.
Oui.
Je m'y suis mariée.
Alors, dans quel pays vous avez vécu ?
Comment ?
Dans quel pays vous avez vécu alors ?
Eh bien, le Maroc,
oui.
La France. Et je peux vous citer les villes parce que j'ai changé
Allez-y.
De ville assez souvent. Mes parents s'étaient installés dans l'Est, à Chaumont, qui était la plus petite préfecture de France. Ensuite, j'ai fait mes études à Dijon. Ensuite, je me suis mariée, j'ai vécu à Albertville, en Savoie. Ensuite, j'ai divorcé, je suis venue à Paris. donc, j'ai vécu longtemps en France.
En Israël aussi ?
Non, je suis passée en Israël, je suis allée en Israël souvent. J'ai aimé, j'ai eu du mal au début. Et puis c'est quand même un pays prenant, quoi.
Alors, on revient dans le fil de votre biographie. Votre carrière d'écrivain a débuté avec le roman « Baisse les yeux, Sarah », publié en 1980 chez Grasset. Un livre qui a rencontré un succès notable à la fois en librairie et auprès des critiques, hein, puisque vous avez reçu des critiques élogieuses. Vous avez ensuite publié votre deuxième roman en 1985, « L'homme adultère », avant de vous consacrer à la peinture. Alors, il ne faut pas trop le dire, hein, vous m'avez dit, et à l'écriture de scénarios. Et puis après une longue pause, vous êtes revenu à l'écriture de romans avec Robert De Niro, Le Mossad et moi, aux éditions de l'Antilope. On vous avait reçu avec grand plaisir dans cette émission pour en parler. Et puis, aujourd'hui, votre actualité, Cherche David éperdument, toujours aux éditions de l'Antilope. Alors, de quoi parle ce roman ? Le personnage principal, Claire, tombe sur une carte postale ancienne suspendue à l'étal d'un bouquiniste sur les quais à Paris. Sa stupéfaction est totale en se reconnaissant sur la photo. 60 ans plus tôt, en 1936, elle avait été prise à Fès, au Maroc, par son premier et grand amour, David Cohen. Avec cette carte postale, le passé refait surface et en même temps le désir de retrouver celui dont elle était follement éprise. De Fès à New York, en passant par Paris et La Paz, les pérégrinations de Claire nous emportent dans la poursuite éperdue de son amour d'enfance, reflétant tout le romantisme de la situation, mais aussi le besoin de connexion avec le passé, ainsi qu'une exploration de son être. Sa quête n'apporte pas toujours les bonnes réponses. Elle conduit à des satisfactions comme à des insatisfactions, mais toujours, elle mène à des découvertes inattendues. Alors, c'est le roman dont la lecture est aux antipodes de l'ennui. L'écriture est drôle, rythmée, accélérée. On l'a dit hein, tout à l'heure en se parlant un petit peu en avant, c'est le roman feel good du moment qu'on a envie de lire et qui nous fait peut-être un peu sortir aussi de la tristesse et de la dureté des événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit à l'écriture de ce roman et au choix de ce thème ?
Ah, c'est une vieille histoire. J'étais chez ma mère et elle recevait une de ses amies du Maroc qui, entre petits gâteaux et thé à la menthe, nous dit « Ah, mais vous savez pas ce qui est arrivé à mon frère ?» Et elle nous raconte l'histoire de son frère qui s'appelait pas David Cohen, mais c'était un Cohen, et qui avait été follement amoureux d'une Française catholique d'Algérie qui arrivait à Fès dans les années 28, et qu'il n'avait pas pu épouser à cause des rigueurs rabbiniques qui interdisent à un Cohen d'épouser une convertie ou une divorcée. Et alors, un beau jour, alors qu'il s'ennuyait, il a 78 ans, etc., et il attend la mort tranquillement avec... et le téléphone sonne, et c'est Claire qui surgit au téléphone. Donc... cette histoire d'une vieille dame, parce que Claire, elle n'est plus la jeune fille de 15 ans, elle a 72 ans quand elle téléphone à cet homme. Alors, une histoire d'amour, sur fond colonial, au Maroc, à Fès, avec une femme de 72 ans, moi ça m'emballe. J'ai tout de suite pensé à en faire un roman. La seule chose, c'est que elle me parlait de son frère, mais je ne trouvais pas que l'histoire du frère était tellement passionnante. Il était assis et il recevait un coup de fil, la belle affaire. Tandis que l'histoire de cette femme, qui apparemment avait vécu une vie compliquée et animée, eh bien ça m'a intéressée. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à me renseigner sur le Maroc des années 30, parce que je ne suis pas née en 1930 et que c'était quand même assez lointain, que je ne suis pas née à Fès non plus. Moi, je suis née à Casablanca, mais je connaissais Fès, mais c'était des souvenirs d'enfance, parce que mon père avait vécu à Fès quand il était enfant, et sa mère y était morte, et il nous arrivait d'aller à Fès. Il voulait aller sur la tombe de sa mère. Donc, j'ai un souvenir tout à fait particulier, à la fois du cimetière juif de Fès, qui est un des plus beaux du Maroc, et du Mella de Fès, qui, pour une gamine de 7 ans, était 7-8 ans, était un endroit terrifiant.
Alors, vous nous dites beaucoup de choses. Tout est intéressant parce que quand on lit le roman, et il y a plusieurs niveaux de lecture ou plusieurs strates. Il y a cette histoire d'amour impossible, oui. et ça aussi, il faut y revenir, entre une jeune femme, Claire, qui vieillit après, qui est le personnage principal, qui est d'origine française et catholique, qui est la fille d'une mère aux amours contrariés et qui l'élève seule avec sévérité et inquiétude. Et là, c'est un peu le statut de la femme aussi que l'on voit dans dans ce pays d'Afrique du Nord. Elle rencontre un jeune homme juif, David, qui a toutes les qualités. Il est beau, il est riche, apparemment.
Ah oui.
Et mais il est surtout Cohen. Et il ne peut pas épouser, même si elle acceptait de se convertir, ce ne serait pas suffisant. Est-ce que vous avez enjolivé un petit peu tout ça ou c'était vraiment la réalité de...
Non, c'était la réalité de cette femme. C'était la réalité de cette femme. Bien sûr, j'ai pas voulu la rencontrer, cette femme. L'amie de ma maman m'avait proposé de la rencontrer, mais j'ai pas voulu parce que je voulais pas être enfermée dans un personnage. Je voulais être libre de l'imaginer et de la faire bouger et de la faire vivre. Mais en même temps, il me fallait me mettre à sa place aussi. Mais un écrivain, ça ne parle jamais que de lui.
Donc Claire, c'est un peu vous aussi.
Mais oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que on pense, hein, mais je vous allez nous le dire, vous êtes bien documenté sur la ville de Fès à l'époque, et puis cet échange de culture entre les Français, les autochtones, les Juifs, les non-Juifs.
Absolument.
Et les musulmans aussi.
Et les musulmans.
Oui. Comment une femme à l'époque, c'était compliqué quand elle était mère célibataire aussi et qu'elle se raccrochait parfois à certains hommes qui n'étaient pas allés mieux pour elle, que les enfants pouvaient en souffrir.
Oui, tout à fait. Je veux dire, j'ai ma documentation, elle ne s'est pas... Il y a eu les livres d'histoire, il y avait les romans des années 50, il y avait énormément de choses écrites sur le Maroc. Et beaucoup de romans qui avaient été écrits sur le Maroc, qui étaient des Français ou des militaires, qui racontaient un Maroc disparu ou un Maroc qui était leur contemporain dans les années 50. Mais j'ai aussi interviewé les gens de ma famille, les amis des gens de ma famille, ceux que je connaissais, etc., qui m'ont raconté des tas de choses, si bien qu'il y a des personnages, par exemple, dont je me souviens, qui sont des personnages qui font partie de la famille. Par exemple, il y a un personnage qui est cousin Moïse, mm-hmm. qui est le cousin de David et qui a un rôle dans cette histoire. Et cousin Moïse, c'était le cousin de mon père. Et je le décris tel que je l'ai vu. Pour une raison tout à fait mystérieuse, je le voyais unijambiste, mais il n'a jamais été unijambiste. Et il n'a jamais été unijambiste, mais c'était un trépané de guerre. Il avait fait la guerre de 14, les Dardanelles, etc. Et c'était un vrai personnage tout à fait truculent.
Qu'est-ce qu'il y a de Paul Darmon dans le personnage principal de Claire ?
Oh ben ça, c'est une question piège.
Parce qu'elle aussi, elle tente l'aventure, elle va le retrouver, elle va tenter de retrouver son David sur un autre continent, en Amérique.
Ben, c'est-à-dire qu'elle se réveille assez tard et elle... Il y a une phrase du Talmud qui m'a toujours impressionnée et que je trouve tellement formidable, qui s'appelle Tse Ulmad. Sors et apprend. Et ce sort et apprend, c'est quelquefois terrifiant de sortir, d'ouvrir la porte et d'aller vers l'inconnu. Et en même temps, c'est ouvrir la porte, aller vers l'inconnu et surtout aller vers soi. Si bien que Claire, en définitive, moi j'ai ouvert la porte assez tard. Il m'a fallu des tas de complications pour arriver à divorcer. Alors que j'avais un mari parfait, n'est-ce pas ? Et puis,
mais vous avez
la première fois que je suis allée en Amérique latine, j'ai voyagé toute seule. J'ai pris mon sac à dos, avec une idée complètement saugrenue, mais j'ai pris mon sac à dos et je suis partie, à la stupéfaction de toute ma famille, je suis partie 6 mois en Amérique latine avec mon ordinateur dans mon sac à dos. Ça a été une expérience absolument merveilleuse. Mais personne ne croyait que... J'avais 57 ans, quand même. Et puis après, je suis arrivée en Amérique latine, etc. Et beaucoup plus tard, c'était dans les années 2007, je suis allée pour la première fois en Argentine. Je voulais faire encore un périple latino-américain. Mais je suis arrivée à Buenos Aires et il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que j'étais là depuis 3 jours, je marchais dans la ville, je respirais la ville. Et j'ai dit, c'est ici que je veux vivre. J'avais quand même 62 balais. Et ma mère a eu cette réaction absolument extraordinaire quand je lui ai dit que j'allais m'installer à Buenos Aires. Parce qu'il n'y avait pas possibilité de m'enlever cette idée. Alors elle m'a regardée comme ça et elle m'a dit, eh ben, d'accord, ça me fera voyager.
Est-ce que vous comptez y rester à Buenos Aires?
Pour l'instant, oui.
Oui,
oui, on verra, hein, la vie.
Alors, dans votre roman, il y a aussi les poids des traditions, donc l'impossibilité d'un mariage entre un Cohen et une non-juive, même convertie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a pesé, vous aussi, dans votre enfance ou même après?
Non, pas tellement. Moi, ce qui m'a marqué, c'est au Maroc, j'avais une partie de ma famille qui venait d'Algérie, avec un oncle qui s'était marié avec une Ashkenaz, parce qu'il voulait se marier avec une femme bien. Et puis ensuite, il y avait une partie de ma famille qui était marocaine. Alors, côté paternel, c'était le siècle des Lumières, la France, et côté Maroc, c'était à la fois l'application de la loi sans savoir pourquoi, mais on l'appliquait, et puis le sentiment de deux mondes différents dans lesquels j'étais un peu tiraillée quand même.
Parce que
et que décrit absolument merveilleusement Albert Memmi dans Portrait du colonisé et Portrait du colonisateur, parce que ça vraiment, ça n'a pas vieilli, hein. C'est extraordinaire.
Est-ce que vous savez qu'il y aurait une solution à la situation de David et Claire? En fait, pour qu'un Cohen puisse épouser une femme juive, donc si elle s'était convertie, il aurait dû déchoir de son titre de Cohen, c'est-à-dire que...
Absolument,
d'un
oui,
point de
j'ai
vue
jamais
Alaric,
bien compris cette histoire, mais alors, je sais que ça existe.
Pourquoi les Marocains qui connaissaient sur le bout des doigts les textes de la tradition juive, pourquoi ne pas l'appliquer? Parce que c'était inacceptable que dans une famille juive, une non-juive n'entre d'origine.
À l'époque, c'était absolument inacceptable. C'était inacceptable. En plus, la mère de David était une veuve. Alors, c'est difficile, elle avait perdu son mari, elle était très jeune. Elle avait la responsabilité. C'est surtout David qui menait la famille. Il y avait une grand-mère, une mère, il y avait deux aïeuls. Et c'était une famille qui a été assombrie par le deuil beaucoup, mais où il y avait beaucoup de vie.
Est-ce que des membres de la famille ont lu le roman? Ou des deux familles, enfin celle qui incarne Claire et celle qui incarne David?
Et non.
Non?
Non, non.
Donc il n'y a pas d'avis sur la question, mais bon, il faudra leur faire passer.
Oui, ma mère l'a lu à son début, elle était enchantée par le côté extraordinairement romantique de cette histoire d'amour.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Paul Darmon, qui nous parle de son nouveau roman « Cherche David éperdument », qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Quand vous écrivez un roman en tant qu'auteur, est-ce que les articulations se mettent en place rapidement? Est-ce que tout est écrit d'avance ou est-ce que vous improvisez un petit peu au cours de l'écriture?
Ah non, c'est loin d'être écrit d'avance.
Parce que ça va tellement vite, le rythme est emporté.
Mais personnellement, je veux dire, une lecture, c'est un peu comme une musique. On doit être emporté par la musique, par le rythme. Et si on se perd en cours de route, alors j'aime beaucoup la littérature classique avec des grandes démonstrations, etc. Mais il y a tellement, je lis tellement de livres, et surtout des best-sellers, où il y a des tas de dialogues qui servent à rien, des descriptions qui servent à rien, du délayage. Il y a des livres qui racontent une histoire intéressante, et chaque fois je me dis, on pourrait enlever 100 pages, ça serait encore mieux. Et donc, moi j'écris, ça, il faut sortir et c'est assez pénible de temps en temps. Mais et ensuite, je corrige, j'ajoute, j'enlève. Enfin, c'est tout un travail qui est celui que je préfère.
Qu'est-ce que vous enlevez justement ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous raconter, une anecdote de quelque chose que vous aviez pensé et que finalement vous avez dit non, ça ne va pas dans l'intrigue ?
Non, c'est pas des histoires, c'est pas des anecdotes. C'est plus dans le rythme de la phrase, d'un paragraphe, d'un chapitre, où je me dis, ça ne sert à rien.
La musicalité est importante quand on vous lit.
La musicalité est très importante. Et puis, de ne pas perdre le fil en cours de route. J'aime les choses assez concises, pas qu'on se perde dans le...
Alors, le message passe bien, parce que c'est un roman bien construit, très distrayant, qui fait du bien, on l'a dit. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez, quand vous écrivez, des messages à faire passer, ou est-ce que c'est vraiment de la littérature pure de raconter une histoire et de bien la raconter ?
Raconter une histoire et bien la raconter, c'est essentiel. Ensuite, il y a les personnages, parce que ça aussi, c'est important. Mais il y a...
Par exemple, mettre en avant une femme libre, Claire, finalement, qui fait ce qu'elle a voulu, même si elle commençait mal en n'épousant pas le mari qu'elle souhaitait.
C'est une instinctive.
Oui, ouais, ou dénoncer le poids des traditions.
Oui. Mon premier roman, c'était ça. C'était de montrer... Parce que j'avais commencé à écrire comme ça, dans « Baisse les yeux, Sarah ». Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux dire, au fond ? Et finalement, ça s'est éclairci. Je voulais montrer que l'éducation d'une jeune fille juive née au Maroc consistait à la faire passer d'une autorité à une autre. D'abord, celle du père, à celle du mari, et qu'elle n'avait pas du tout son mot à dire. Elle pouvait choisir le mari, oui, évidemment. Mais le mari remplaçait le père, sauf qu'il couchait avec elle, quoi.
Alors, le roman nous conduit à La Paz. Les descriptions sont... Alors, c'est à la fois amusant et parfois même c'est un peu triste, hein, parce que sa quête n'est pas toujours positive. Mais on a l'impression que vous connaissez par cœur la moindre petite rue, les montées, les descentes, les sentiments de forte température. Vous y avez vécu à La Paz, vous connaissez bien ?
Ah, je connais bien, oui. Je connais très bien La Paz. J'y suis allée souvent, j'y ai des amis... Et j'ai passé beaucoup de temps. C'était une ville, parce que maintenant, elle devient un peu plus civilisée, si on peut dire. Et elle perd beaucoup de son charme. Mais c'est à l'époque, quand j'y suis allée, c'était en 2001. Et ce que je décris, c'est 1990-1995. Je veux dire, c'était une ville incroyable, incroyable. Elle dégouline sur la montagne de 4000 mètres à 3000. Et puis, il y a un désordre apparent partout, mais qui n'est qu'apparent, parce que c'est très organisé, finalement. Et j'ai adoré cette ville tout de suite. C'est la ville que je préfère en Bolivie, parce que je me suis baladée dans toute la Bolivie. C'est de loin la ville que je préfère.
Vous avez employé l'expression de « désordre organisé ». Est-ce que c'est pas un désordre organisé ? C'est pas un peu vous, ça aussi ?
Ah oui, oui. Et puis, c'est le Maroc. Hein.
Oui.
Alors, Buenos Aires, pour moi, c'est Casablanca. Mais je vous assure que la Bolivie, pour moi, c'est le Maroc. C'est pareil.
Mais Casablanca, Buenos Aires, qu'est-ce qui ressemble dans ces deux villes ?
Il y a l'air, la lumière, l'espace, la végétation, la chaleur. Il manque la mer, parce que c'est curieux, mais Buenos Aires tourne le dos au Rio de la Plata. Buenos Aires est tourné vers la Pampa. Et quand je suis arrivée à Buenos Aires la première fois, même les bords du Rio de la Plata étaient très peu visités. Enfin, ça n'intéressait personne. Maintenant, ça commence quand même. Il y a des cafés et tout.
La fin, vous l'avez évidemment choisie, vous en êtes l'auteur. Est-ce que vous avez hésité ? Alors, on ne va pas le dire, hein, parce qu'il faut lire le livre jusqu'au bout. Est-ce que vous avez hésité entre plusieurs issues ?
Ah, mais j'ai écrit, je ne sais pas, 10 fins différentes. Il y avait 10 possibilités, 20 possibilités. Et
pourquoi celle-là en particulier, alors?
Mais parce que j'avais écrit une fin très romantique. Et je la trouvais bébête. Je la trouvais un peu gnagnan. Alors, il me fallait une fin qui soit à la fois romantique et qui soit tournée vers le futur, qui ouvre là aussi une porte vers quelque chose, vers l'inconnu, parce que il peut se passer des choses après.
Vous avez écrit 4 romans, peut-être davantage, hein, ceux-là sont les plus connus, ceux que j'ai cités. Ce roman-là fait beaucoup penser dans l'écriture, dans le style emporté au précédent. Est-ce que les autres se ressemblent aussi? Et la question, c'est est-ce que pour vous, il y a une sorte de ligne directrice entre tous les livres que vous écrivez?
J'écris un peu comme je parle. Hein. Et oui. Et puis, c'était aussi la façon dont on parlait à la maison. Mon père avait un vocabulaire extrêmement riche et très imagé. Et il avait le génie de la description. Et je crois que j'ai hérité sans le génie.
On peut le dire, oui.
Laissons le génie où il est. Mais bon. L'image est importante.
Est-ce qu'à vous, ça vous fait du bien d'écrire? Comme le recevons.
Oui, oui et non. Enfin, non, j'exagère de dire non. Mais quelquefois, c'est difficile.
Pourquoi?
Mais parce que si vous n'allez pas au fond, si vous n'allez pas au vrai, eh bien, ça ne marche pas.
Alors, est-ce que vous êtes contente du produit fini?
Finalement, oui.
Alors, il est sorti il y a quelques semaines.
Il m'a donné beaucoup de mal. Je l'ai transformé je ne sais plus combien de fois. J'ai changé le titre je ne sais plus combien de fois aussi. Mais finalement, je crois que c'est la meilleure version.
Et qu'est-ce qu'en disent les éditeurs, Gilles et Anne-Sophie, que l'on salue?
Apparemment, ils sont contents.
Et les lecteurs, est-ce que vous avez des retours déjà des premiers lecteurs?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'ils en disent?
Ah ben, ils sont... Et bon, enfin, je veux pas me lancer des fleurs, mais...
La fille de génie peut se lancer des fleurs.
Non, mais ça me fait très plaisir, parce qu'ils ont tout à fait senti ce que j'ai voulu montrer.
Est-ce que vous travaillez sur un nouveau roman?
J'ai beaucoup, oui.
Oui?
Oui, oui. Mais je suis assez lente dans ma manière de travailler. Parce que j'ai besoin d'écrire, de laisser tomber, de revenir. Je m'aperçois que ce n'est pas bon du tout. Je recommence, etc. Donc, je suis assez lente dans mon travail.
Alors, avant de terminer... Ouais. Je ne peux pas ne pas vous poser une question par rapport à l'actualité au sein du monde juif. Depuis le 7 octobre, nous ne sommes plus exactement les mêmes. On a entendu les chiffres de l'antisémitisme en France qui ont explosé de 2000%. Déjà, comment ça se passe en Amérique latine où vous vivez? Est-ce que vous sentez qu'il y a un climat qui a changé? Et est-ce que vous avez un regard sur ces événements? Peut-être le regard d'une femme qui est née dans un pays du monde arabe, qui l'a quitté par la suite?
Le regard, on n'a pas osé. Je veux dire, c'est la douleur pure et simple. Mais par rapport à l'Amérique latine, en tout cas à Buenos Aires, je sens pas du tout ça. Je sens pas du tout. La communauté juive de Buenos Aires était l'une des plus importantes d'Amérique latine, la plus importante. Elle a beaucoup diminué, surtout après la guerre. Et... Il y a eu des migrations dans tous les coins. Et elle est majoritairement hyper-orthodoxe. Et bon, je veux dire, ils sont assez... politiquement, ils sont assez à droite quand même.
Et donc, un climat d'antisémitisme, vous ne le sentez pas du tout?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Donc, c'est la base.
Il y a un grand mélange. Je sais qu'il y a une communauté syrienne extrêmement importante. mais qui est disséminée dans le pays. Il y a quand même une mosquée qui a été... Il y a eu un président, quand même, d'origine syrienne. Mais ça n'a pas influé. Et moi, je ne sens pas l'antisémitisme du tout.
Donc, ça veut dire que ça fonctionne, finalement, le brassage des cultures.
Le brassage fonctionne assez bien, oui.
Bon, c'est là-bas qu'il faut aller vivre, en fait.
Mais à vrai dire, je suis assez contente d'y être, hein, parce que je trouve que l'ambiance à Paris est quand même assez lourde.
Elle est très lourde, et c'est pour ça que lire un roman comme le vôtre fait vraiment du bien, et je le dis en toute sincérité, on peut le lire en une traite, on ne s'ennuie pas, le style est truculent, trépidant, ça va très très vite, et puis en même temps on se replonge dans une époque, donc ça fait sens aussi, c'est pas uniquement de la littérature pour la littérature, et c'est un livre qu'on aime. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile, pour terminer cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre roman. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Non, c'est un livre où on apprend des choses.
Tout simplement.
Oui.
Merci beaucoup, Paul Darmon, d'être parmi nous.
On s'amuse, hein.
En plus,
aussi.
On s'amuse et ça fait
on
vraiment du bien.
On apprend pas mal de choses, je crois.
Merci d'être venu faire une petite halte dans notre émission de Radio Shalom. Donc, votre actualité, c'est la parution de ce livre. J'en rappelle le titre, « Cherche David éperdument » de Paul Darmon, qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Et vous l'avez compris, c'est le livre que l'on recommande à toutes et à tous. Bonsoir et à bientôt.
Merci. Bonsoir.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.